Les secrets de Malte.
Un trèfle à cinq feuilles?
Où l'on découvre que les géants existent et qu'ils habitent l'archipel de Malte.
Nous sommes au XVIIe siècle, aux côtés du noble Abella. Ce haut personnage est plongé dans la rédaction d'une importante description de Malte. Méticuleux, il détaille chaque aspect remarquable de l'archipel. Parmi eux, il y a les très vieux temples situés sur l'île de Gozo, qu'Abella n'oublie évidemment pas de mentionner. Ils sont impressionnants, ces temples. Les pierres dont ils sont constitués sont énormes. Certaines mesurent plus de 5 mètres de haut et pèsent plusieurs dizaines de tonnes. Qui a bien pu construire de tels édifices? Pour Abella, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Ils ont été bâtis par des géants. Sa théorie, qui à l'époque ne choque pas grand monde, est bien entendu hautement farfelue. Mais alors, qui est à l'origine de ces mystérieux temples? Des humains, tout à fait normaux, qui appartenaient à une civilisation préhistorique brillante. Plus de 3000 ans avant notre ère, et environ 5 siècles avant les pyramides d'Égypte, ces hommes et ces femmes ont réussi l'exploit de construire ces édifices dont le plan ressemble un peu à des trèfles. Pour déployer toute cette énergie sur l'île de Gozo, c'est qu'ils devaient considérer ce lieu comme un centre religieux très important. Aujourd'hui, on s'interroge toujours sur le procédé qui a permis, à une époque lointaine, de déplacer des blocs de pierre si énormes. Une chose est sûre, ces gens possédaient des compétences techniques très avancées. Ils connaissaient aussi parfaitement les ressources de leur île. Les parties extérieures des murs, promises aux intempéries, sont conçues dans une pierre beaucoup plus résistante que celle qui sert à la construction de l'intérieur. Bien vu. Quant à l'histoire des géants, elle n'a pas tout à fait disparu. En effet, les deux temples les plus impressionnants de Gozo se dressent fièrement sur le site de Gjantija, ce qui signifie « Tour des géants ». Aujourd'hui classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, ils accueillent tous les visiteurs, quelle que soit leur taille. Une seconde jeunesse.
Où l'on part à la rencontre d'un navire qui change d'identité. En 1951, le commandant Jacques-Yves Cousteau est à Antibes. Et il est de bien bonne humeur. Il a enfin trouvé le navire qui va lui permettre de partir en expédition scientifique. Celui-ci a besoin d'un petit lifting, mais il sera bientôt prêt pour le départ. Pour ce bateau, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre et qui prolonge une histoire déjà riche. Après une brève carrière militaire à détruire des mines pendant la Seconde Guerre mondiale, il a transporté des voyageurs et marchandises entre l'île principale de Malte et sa charmante voisine, l'île de Gozo. C'est à cette occasion qu'il prend le nom, aujourd'hui célèbre, de la Calypso. C'est tout de même plus facile à retenir que BYMS-26, son nom d'origine. Mais pourquoi l'appeler la Calypso? Derrière ce nom énigmatique se cache la nymphe de la mer, dans la mythologie grecque. Dans l'Odyssée, un récit du poète antique Homère, c'est elle qui accueille Ulysse après son naufrage. Elle tombe amoureuse de ce héros des mers et le retient auprès d'elle pendant 7 longues années. Ils habitent alors une grotte qui serait située sur l'actuelle île de Gozo. En hommage à cette légende antique, on la surnomme la grotte de Calypso. Alors, quand BYMS-26 devient un ferry, qui effectue des liaisons entre Malte et l'île abritant la fameuse caverne, son nom s'impose de lui-même. Une fois récupérée par le commandant Cousteau, la Calypso s'enrichit d'un équipement scientifique. Des chambres d'observation sous-marines, un scooter des mers, du matériel de recherche océanographique, c'est bien le minimum pour lui permettre de mener ses nombreuses missions d'exploration des fonds marins. Quant à la grotte de Calypso, elle offre aujourd'hui encore une vue imprenable sur la baie de Ramla et sa large plage de sable, aux teintes rouges et dorées. Au moins, Ulysse a dû apprécier la vue pendant ses années de captivité. Embarquement immédiat.
Où l'on découvre des bateaux tape à l'œil. Qu'arrive-t-il à ces promeneurs? Alors qu'ils découvrent le petit village de Marsaschlok, dans le sud-est de Malte, ils jettent sans cesse leur regard vers la mer, comme s'ils se sentaient observés. Et en effet, ils sont bel et bien tenus à l'œil, par les curieux bateaux qui mouillent dans le port. Et ce n'est pas qu'une façon de parler. Ces luzzo, des embarcations de pêcheurs qui ne s'éloignent pas trop de la côte, sont ornées de grands yeux à leur proue, à l'avant du bateau. Difficile de remonter à l'origine de cette décoration. Certains habitants du coin racontent qu'il s'agit d'une tradition importée par les Phéniciens, les navigateurs de l'Antiquité. Pour d'autres, ces yeux sont symboliquement ceux d'Horus ou d'Osiris, car, selon les mythes anciens, ces dieux égyptiens auraient appris aux hommes à se nourrir par la pêche. Une explication qui a le mérite de justifier la présence de ces yeux sur les bateaux. Une chose est sûre, ces ornements sont censés protéger les pêcheurs des dangers de la mer et leur assurer des sorties fructueuses, avec des pêches abondantes. En bref, ces yeux doivent leur permettre d'échapper au mauvais œil. Quant au luzzo, ce bateau est si réputé sur Malte qu'il est devenu l'un des symboles du pays. Autrefois, on le trouvait même sur les pièces de monnaie. Et s'il attire le regard, c'est aussi par ses couleurs éclatantes. Si chaque bateau est peint de manière unique, ils déclinent tous la même palette. Jaune pour le soleil, bleu pour la mer, rouge pour se donner du courage et du vert pour avoir la chance avec soi. Décidément, on peut embarquer dans les luzzo les yeux fermés. On y est bien protégé. Mais si vous préférez rester à terre, pas de problème. Vous pouvez les admirer de loin, depuis le port ou le marché aux poissons de Marsaxlokk.
Avis de tempête !
Où l'on a envie de croire au miracle.
Nous sommes en l'an 60 de notre ère. Sur la mer déchaînée, une frêle embarcation essaye tant bien que mal d'éviter le naufrage. La fin est proche. Parmi les passagers, un homme reste cependant très détendu. Il s'agit de l'apôtre saint Paul, qui, prévenu par un ange, est convaincu que cette aventure connaîtra une issue heureuse. Et il a raison. Le bateau finit bien par sombrer dans les eaux, mais les voyageurs, eux, parviennent à rejoindre les côtes de Malte sains et saufs. Ils y sont alors accueillis par des habitants qui leur témoignent une humanité peu ordinaire, comme le raconte la Bible, d'où cette histoire est tirée. Cependant, saint Paul n'a pas le temps de traîner. Il est attendu à Rome et doit donc poursuivre sa route. Mais comment faire sans bateau ? En panne de solution, il s'installe dans une grotte, encore une, près de la ville de Rabat. C'est là que, petit à petit, il reçoit la visite de curieux ayant eu vent de ses dons. Et oui, après avoir survécu à la morsure d'une vipère, à la plus grande surprise de tous, il réalise d'autres miracles et commence à transmettre les messages du Christ. Sa petite renommée grandit tant qu'il finit par être invité chez le gouverneur de Malte à Mélite, qui deviendra plus tard Mdina. Alors que le père de celui-ci est atteint d'une grave maladie, saint Paul parvient à le guérir. Le gouverneur est si reconnaissant et impressionné qu'il se convertit illico au christianisme et devient même le premier évêque de Malte. Si dans cette histoire, son séjour à Malte n'a duré que 3 mois, saint Paul a visiblement fait forte impression sur l'île, car on le fête encore aujourd'hui tous les 10 février, date anniversaire de son arrivée sur les côtes maltaises.
Accès interdit.
Où l'on découvre que Malte cache une île au trésor.
Nous voici maintenant en 1744. Le grand maître de l'ordre de Saint-Jean qui dirige Malte vient de prendre une décision tranchante. Il est désormais interdit de s'approcher de la petite île de Fungus Rock. Et gare à ceux qui défieraient la règle, car ils risquent la bagatelle de 3 ans de galère. Mais quel trésor abrite donc ce rocher à l'aspect inhospitalier ? Pas de pièces sonnantes et trébuchantes, mais une plante, que l'on prend à l'époque pour un champignon. Cette racine du général, ou Cinnomorium écarlate, est en effet très rare, et donc très chère. Réduite en poudre, elle devient un traitement efficace pour stopper les hémorragies et soigner certaines maladies. Voilà qui explique l'intérêt du grand maître pour Fungus Rock. Grâce à la fermeture de l'île aux explorateurs de tout poil, les chevaliers de l'ordre de Malte se réservent la récolte du champignon qui vaut de l'or. Avec sa vente, ils ont de quoi se constituer un véritable trésor, monétaire cette fois. Alors, pour décourager la visite de personnes indésirables, Fungus Rock, autrement dit le rocher aux champignons, est surveillé jour et nuit par des soldats. On raconte même que la pente abrupte du rocher a été polie pour qu'il soit totalement impossible de l'escalader. Seul le responsable de la récolte a accès aux précieux champignons, moyennant un dangereux trajet dans la nacelle en osier d'une sorte de funiculaire. Aujourd'hui, personne ne risque plus de finir aux galères. Toutefois, le rocher est toujours interdit au public. Il est désormais classé réserve naturelle et son accès limité aux scientifiques. Alors, pour ceux qui craignent de trop s'approcher, on peut l'admirer sans risque depuis la petite baie de Douala, à Gozo, au sein d'un incroyable littoral aux falaises escarpées.